Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h30, temps universel, du lundi 9 décembre 2019. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Au Tchad, l'ancien Premier ministre Kalzobe Payemi Debe est maintenu en détention préventive dans une affaire de corruption. En Angola, le fils de l'ancien président Dos Santos devant la barre pour corruption présumée. Sa sœur Isabelle Dos Santos aussi fait l'objet d'une enquête. Plus de 9 millions de personnes touchées par la famine dans le Sahel, soit deux fois plus que l'an dernier. Les États-Unis demandent une réunion du Conseil de sécurité cette semaine après les récents tirs de missiles nord-coréens. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout de suite, le journal. Au Tchad, l'ancien Premier ministre et actuel ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzobe Payemi Debe, est maintenu en détention préventive. C'est le président de la Cour suprême, Samir Adam, qui a confirmé son retour à l'instruction ce matin à N'Djamena. Le point avec André Konmajingar.
Arrêté le 1er décembre et placé sous mandat de dépôt le 3 décembre dernier, l'ancien premier ministre Kalzobe Payemi Debe et deux de ses co-accusés sont poursuivis pour complicité d'escroquerie, tentative de détournement faux et usage de faux et abus du pouvoir. Ce lundi, le dossier a été traité au fond devant la Cour suprême. Le président de la Cour, Samir Adam, a confirmé la décision du procureur général près la Cour d'appel de N'Djamena, les plaçant en détention préventive. Maître Alain Kagombe, avocat de l'ancien premier ministre Kalzobe Payemi Debe, se dit choqué par la décision du président de la Cour suprême, car, dit-il, la procédure n'est pas respectée.
La Cour est souveraine, mais il faut qu'on respecte au moins un peu la loi. Nous avons des codes. Ces codes-là, ça doit profiter à tout le monde, ça doit sanctionner tout le monde. Mais il ne faut pas qu'on ferme les yeux et qu'on fasse autre chose. C'est ça, c'est ce qui est regrettable.
Selon Maître Alain Kagombe, le nouveau code de procédure pénale prévoit 5 jours à compter de l'arrestation de l'inculpé pour décider de son maintien en détention préventive ou non. Mais dans ce dossier, poursuit-il, son client est arrêté le 1er décembre et le délai fixé par la loi est largement dépassé. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Niger, au moins un soldat a été tué ce lundi dans une attaque à la voiture piégée contre un camp de l'armée dans la région de Tawa, dans l'ouest, proche du Mali. Selon une source sécuritaire, la riposte énergique des militaires a permis de repousser les assaillants et des renforts arrivés sur place ont lancé des opérations de ratissage dans la zone. Avec la montée de l'insécurité et des violences, le nombre de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire dans 16 pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest a plus que doublé fin 2019. Selon une réunion d'experts à Paris, ce nombre est estimé à 9 400 000 personnes. Arzuma Compaoré.
Les trois pays les plus touchés par la faim sont le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso, a indiqué le réseau de prévention des crises alimentaires qui se réunit au siège de l'OCDE à Paris. Le nombre de personnes qui ont besoin d'une aide immédiate a doublé par rapport à l'année dernière. Selon Mahamadou Hamadou, coordonnateur du programme régional de la sécurité alimentaire du SILS, les conflits dans la région constituent un facteur aggravant de l'insécurité alimentaire. Pour les mois à venir, trois foyers d'aggravation sont pointés du doigt. La région autour du lac Tchad où sévit le groupe Boko Haram, la région du Liptako-Gourma où se rejoignent les frontières du Niger, Mali et Burkina Faso, et une vaste région chevauchant le nord du Sénégal et de la Mauritanie où la sécheresse a créé un déficit fourragier important. Selon les projections du réseau de prévention des crises alimentaires, le nombre de personnes qui auront besoin d'aide alimentaire sera encore plus élevé de juin à août 2020.
L'Union européenne a décidé de maintenir pour un an des mesures restrictives visant 12 cadres du régime de l'ex-président congolais Joseph Kabila et de les lever pour deux d'entre eux. Bruxelles n'a communiqué aucun nom, mais une source diplomatique affirme que l'ancien porte-parole du régime Kabila, Lambert Mende, et l'ex-chef du département de la sécurité intérieure de l'Agence nationale des renseignements, Roger Kibelisa, sont les bénéficiaires de la levée des sanctions. En Angola, José Filomeno Dos Santos, fils de l'ancien président José Eduardo Dos Santos, a comparu devant un tribunal de Luanda pour des faits de corruption. Yacouba Ouetraogo.
José Filomeno Dos Santos, ancien patron du Fonds d'investissement souverain angolais, a comparu avec ses trois complices présumés devant le tribunal. Les quatre hommes, dont Walter Felipe da Silva, ancien gouverneur de la Banque centrale, sont jugés pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. La justice leur reproche d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence suisse. Selon le parquet, de pareilles transactions ont permis à José Filomeno dos Santos de détourner 1,5 milliard de dollars. En septembre 2018, il a été placé en détention provisoire avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire en mars dernier. José Filomeno dos Santos a été nommé en 2013 par son père à la tête du fonds souverain chargé d'investir les revenus pétroliers du pays. Il a été limogé de ce poste en janvier 2018 après l'arrivée au pouvoir de João Lourenço. Sa demi-sœur, Isabelle dos Santos, évincée de la direction de la compagnie pétrolière nationale, fait aussi l'objet d'une enquête pour détournement de fonds. La famille dos Santos accuse le gouvernement de son successeur de la persécuter.
L'ex-archevêque sud-africain prix Nobel de la paix Desmond Tutu a regagné ce lundi son domicile après 6 jours d'hospitalisation au Cap. Desmond Tutu, qui a fêté ses 88 ans en octobre, souffre d'un cancer de la prostate depuis plus de 20 ans. Quelques 5500 prisonniers tanzaniens ont recouvré la liberté ce lundi après avoir été graciés par le président Magufuli à l'occasion de la fête de l'indépendance. Timothée de Longmaï.
C'est à Mwanza, sur les bords du lac Victoria, que le président Magufuli a annoncé cette décision. La mesure vise les personnes condamnées pour des crimes mineurs, ceux qui n'ont pas pu se faire représenter par un avocat ou s'acquitter d'une amende, a expliqué le leader tanzanien. La grâce permettra aussi, a-t-il dit, de désengorger les prisons tanzaniennes. La population carcérale en Tanzanie se chiffre à 36 000 détenus, avec certaines prisons excédant leur capacité. Après une visite à la prison de Mwanza au mois de juillet, le président Magufuli s'était dit attristé par la situation de nombreux détenus attendant leur procès depuis des années. Arrivé au pouvoir en 2015 et surnommé Tinga Tinga, bulldozer en swahili, le président Magufuli s'est montré inflexible dans la lutte contre la corruption. Ses actions répressives contre les médias, la société civile et l'opposition ont amené Amnesty International et Human Rights Watch à dénoncer fin octobre un recul inédit des libertés fondamentales sous son régime.
La police algérienne a dispersé une manifestation d'étudiants et d'élèves dans le centre d'Alger. Au moins 10 personnes ont été interpellées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans une ambiance tendue, démocrates et républicains ici aux États-Unis ont commencé à présenter au Congrès leurs conclusions diamétralement opposées de l'enquête pour la mise en accusation du président Donald Trump. Bagdad a convoqué les ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne et du Canada pour une ingérence inacceptable après la publication d'un communiqué dénonçant la tuerie de vendredi soir dans la capitale irakienne. Idriss Fall.
Les chancelleries occidentales avaient appelé l'État à ne pas laisser des groupes armés opérer hors de son contrôle et à s'assurer que le Hash al-Shabi reste à l'écart des lieux des manifestations. 20 manifestants et 4 policiers ont été tués vendredi soir sous les tirs ininterrompus d'hommes armés contre un parking à étage occupé par les manifestants. Les négociations politiques pour remplacer le premier ministre démissionnaire Adel Abdelmadi sont dans l'impasse face au rejet par les manifestants de l'ensemble de la classe politique. Le grand Ayatollah Ali Sistani s'est démarqué de la formation du futur gouvernement, de même que Muqtada Sadr, qui contrôle le premier bloc parlementaire. Depuis le début de ce mouvement inédit, plus de 450 personnes ont été tuées et plus de 20 000 blessées. Dans ce contexte, les bases militaires irakiennes abritant des soldats américains et l'ambassade américaine ont été la cible de 9 attaques à la roquette en 6 semaines.
Les États-Unis ont demandé une réunion cette semaine du Conseil de sécurité des Nations Unies pour évoquer le risque d'une escalade dans les provocations, j'ai cité, de la Corée du Nord après ses récents tirs de missiles. L'administration de Donald Trump a en revanche renoncé à organiser une réunion de cette même instance sur les droits humains en Corée du Nord, sur fond de nouvelles tensions entre les deux pays. En Israël, les députés ont jusqu'à mercredi pour tenter de trouver un remplaçant au Premier ministre Benjamin Netanyahou. faute de quoi le pays ira vers un nouveau scrutin, le troisième en moins d'un an. Après les élections d'avril et septembre qui ont placé Netanyahou et son rival Benny Gantz presque nez à nez, aucun d'entre eux n'a réussi à former un gouvernement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nanit Talani.
Le Fonds monétaire international a approuvé un prêt de 247 millions de dollars à l'Angola au titre de sa facilité de financement élargie à la suite d'un examen des progrès réalisés par le pays. Le FMI a initialement approuvé un prêt de 3,7 milliards de dollars en décembre 2018 pour aider l'Angola à gérer ses crises budgétaires après l'effondrement des prix mondiaux du brut. Le Sénégal a émis trois obligations assimilables du Trésor de 3, 5 et 7 ans dans le but de lever 200 milliards de francs CFA sur le marché régional des titres publics. Les taux de sortie de ces émissions, qui se situent entre 5 et plus de 6 % se placent en tête des meilleures performances de l'année pour leur maturité. Avec le montant obtenu, le Sénégal, qui vise à mieux structurer ses finances, pourra procéder dans les meilleurs délais à l'amélioration du profil de sa dette et aborder l'exercice 2020 dans des conditions optimales. Pour terminer, le Togo s'apprête à doter chacune de ses communes d'une trésorerie dans le cadre de son programme de décentralisation, indique l'agence Ecofin. Ce plan contribuera à la gestion transparente et efficace des ressources financières de ces collectivités locales grâce à la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La Russie suspendue 4 ans par l'AMA.
Oui, l'Agence mondiale antidopage a exclu la Russie des Jeux olympiques pour 4 ans et de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar. Moscou est puni pour avoir récidivé dans la triche en falsifiant des données de contrôle antidopage. La conséquence, c'est que les sportifs russes seront admis lors des compétitions, mais sous drapeau neutre, donc pas de drapeau russe ou d'hymne au JO et à tout championnat du monde. Le pays est aussi interdit d'accueillir ce type de compétition sur son sol. Il ne s'agit cependant qu'une étape qu'à Moscou, via RUSADA ou son comité national olympique, ainsi que les fédérations internationales peuvent faire appel pendant 21 jours devant le tribunal arbitral du sport. En cas d'appel, ces sanctions seront suspendues jusqu'à la décision définitive du TAS.
Football, deuxième victoire pour le TP Mazembe en Ligue des Champions.
Oui, les Corbeaux habitués à ne pas gagner à l'extérieur depuis plus d'un an sont allés battre les Zambiens des Esco United 2-1 grâce à un doublé de Jackson Muleka. Le club de Lubumbashi est en tête dans le groupe A devant le Zamalek du Caire qui s'est relancé en battant 2-0 les Angolais de Primeiro de Agosto. Dans le groupe B, deux matchs et deux victoires également pour l'Étoile du Sahel suite à son succès 3-0 au Zimbabwe devant Platinum. Les Tunisiens solides leaders devant Al Ahly du Caire 2-1 des Soudanais d'Al Hilal.
L'espérance de Tunis enchaîne aussi avec un deuxième succès.
Le double tenant du titre a eu difficilement raison des Algériens de la JS Kabylie 1-0. Courte victoire des Marocains du Raja Casablanca 1-0 devant les Congolais de l'AS Vita Club. Dans la poule C, pas de vainqueur entre deux anciens lauréats de la compétition, le Wydad Casablanca et le Mamelodi Sundowns 0-0. Pas de vainqueur non plus dans l'autre match du groupe entre le Petro Atlético et l'USM Alger, 1-1.
Deuxième journée également en Coupe CAF.
Pyramide FC et Al Masri partagent la tête du groupe A après leur deuxième succès de rang respectivement face aux Mauritaniens du FC Nouadhibou et aux Nigériens d'Enugu Rangers. Les autres Nigériens d'Enimba sont sortis victorieux 1-0 du duel ouest-africain face aux Ivoiriens du FC San Pedro. Apprentissage difficile pour les Béninois d'Esaü battus par les Congolais de DC Motoma Pembe 2-0. La Renaissance sportive de Berkane a accroché les Zambiens de Zanaco 1-0. Le Oroya de Conakry a dominé les Libyens d'Al Nassr 3-0. Les Maliens de Djoliba ont eu raison des Sud-Africains de Bitvest 1-0. Georges Kouadjo, coach du Djoliba AC.
Les joueurs, les dirigeants, les fans, les rouges, tout le monde avait besoin d'une victoire. C'est un championnat, c'est les points qui vont nous déterminer après. Ce n'est pas le beau jeu que nous allons prendre.
Georges Kouadjo, coach du Djoliba AC, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Aujourd'hui est célébrée la Journée internationale de lutte contre la corruption, un fléau présent presque partout et à plusieurs niveaux. Au Sénégal, on le retrouve fréquemment dans la circulation avec des chauffeurs souvent victimes de policiers véreux. Sédina Abagay.
1000 francs par ici, 2000 par là, à la place des contraventions, les billets de francs CFA sont devenus les principaux papiers échangés entre policiers et chauffeurs. Ces derniers n'ont d'ailleurs plus le choix. Ils s'y font, malgré eux. Moustapha Nian exprime son ras-le-bol.
On ne peut pas être chauffeur et ne pas être victime de la corruption. Quoi qu'on le dit haut et fort. La corruption, c'est un phénomène de l'arrivée. Tout Sénégalais a vu ça. Tout ce qui prend la route sait et voit la corruption. Nous, on ne peut rien. Ce que nous déplorons, moi, que la corruption vraiment contrecarre notre travail.
Pour ne pas voir leur travail être au ralenti, les chauffeurs ont fini par s'adapter à cette situation. Maintenant, eux tous, ou presque, jouent le jeu pour éviter de perdre leur temps ou de s'attirer des problèmes évitables, comme l'indique Maud Fall. Des victimes, les chauffeurs passent donc, malgré eux, à partenaires.
Et on est même devenus des potes, hein? Tu passes et il te dit, donc tu pars et après... Si tu reviens, tu vas verser. Si tu ne payes pas, ils amènent tes papiers. Et une fois à la poste, oui, ils peuvent même raconter des histoires. Te dire, on t'a arrêté et tu as refusé. Tu n'as pas tes pièces complètes et tu les as manqué de respect. Ou parfois, ils racontent des choses que tu ne peux pas même comprendre.
Les chauffeurs ne sont pas les seules victimes de cette corruption présente dans la circulation routière. Les usagers se plaignent également de l'attitude de certains policiers. Pour eux, cela n'honore ni leur tenue, ni les valeurs de la République. Mbaïmba Kembang est un étudiant et pour lui, c'est une pratique inacceptable.
Et je trouve que c'est écœurant de voir un pays comme le Sénégal confronté à ces corruptions très répétées de jour en jour. C'est pas fondé parce que c'est comme si c'était obligatoire pour eux de payer parce que c'est comme si c'était un salaire pour les salaires journaliers pour les policiers. Or que si tu as un cours à 8 heures et qu'on arrête les voitures, c'est un retard ça. Parce que l'éducation, elle est fondamentale. Un retard, tu peux tout perdre. Même 15 minutes de retard, tu peux tout perdre. Ça fait que retarder le pays, bon... Et de jour en jour, on est énervé par les problèmes de ces pays. Compte tenu de la corruption, c'est plus écœurant.
La corruption dans la circulation routière est certes très présente au Sénégal, mais elle ne concerne qu'une tranche des hommes détenus. A l'opposé, certains sont des policiers modèles et leur porte-étendard est le célèbre Amoul Yakar, jugé incorruptible par les usagers. C'est d'ailleurs sur lui que se base la police nationale pour redorer le blason des policiers présents dans la circulation routière. À Dakar, Sédina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer l'exploitation sauvage et massive du bois dans la grande partie de la forêt humide équatoriale en RDC. Cela notamment dans la Tchopo, province où des officiels sont souvent cités dans les trafics de bois. Edi Sango a joint à Kinshasa une députée nationale qui est l'initiatrice d'une question orale adressée au ministère de l'Environnement. On écoute Madame Eve Bazaïba.
Je repose à Pédéco, une entreprise chinoise qui est venue pratiquement ravager les forêts à Bassoko de manière illégale. Je dis bien illégale parce qu'ils ont obtenu certes l'autorisation du gouvernement congolais en ayant des accords, mais les habitants, donc les riverains, les ayants droit n'ont pas été informés. On leur a donné un accord pour la chefferie de Yaliwasa et ils ne procèdent même pas à l'abattage rationnel. Ils sont tentés de ravager les forêts en dépassant même la chefferie de Yaliwasa pour aller dans d'autres groupements sans ménagement et c'est l'abattage sauvage. Aujourd'hui, il y a même la biodiversité qui est mise en danger. La population meurt de faim. On n'a plus de chenilles dans la forêt. On n'a plus de tentes qui protégeait l'environnement, et tout ça, ce sont des biens catastrophiques. C'est pourquoi j'ai vu qu'il y a un danger. Parce qu'ils ne font aucune activité de reboisement. Et ils ne choisissent même pas les essences et ils font ce qu'ils veulent.
Il y a sur place une coordination provinciale de l'environnement et du développement durable qui est dirigée par un certain monsieur, je crois, Félicien Malou. Mais il semble que les Chinois et les autres exploitent sous la protection de l'armée ou de quelques militaires qui érigent des barrières.
Je ne connais pas qui les protège. Je ne suis pas dans les détails qui protègent. Moi, comme je joue mon rôle de parlementaire, j'interpelle le gouvernement et le ministre qui a dans ses compétences l'environnement. Donc c'est lui que j'interpelle, c'est à lui de nous donner des informations pour comprendre ce genre de ramifications. Mais là, je suis en train d'attendre jusqu'à présent l'Assemblée nationale n'a pas encore aligné, programmé cette question orale en ordre utile.
Mais le ministre a quand même suspendu les permis d'exploitation de cette entreprise chinoise.
Ils avaient suspendu les travaux d'exploitation, mais ils ont réhabilité. C'est le gouverneur qui avait réhabilité par la suite le gouverneur des provinces. Ils ont réhabilité. Alors on voudrait savoir comment, pourquoi ils ont réhabilité et c'était dans quelles conditions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Quand même, le Congo est signataire de ce qu'on appelle CAFI, l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale qui paye 200 millions de dollars pour que l'exploitation soit réduite.
Je sais que le Congo a un grand rôle à jouer par rapport à la protection des forêts. Mais je sais aussi que le Congo a droit à une compensation, le Congo a droit à l'information, à la formation ou la gestion rationnelle des forêts. Parce que vous n'allez pas dire aux autochtones qui travaillent, qui vivent de la forêt, du jour au lendemain, vous leur dites ne touchez pas au bois de chauffage, ne touchez pas à XY, sans que vous leur dites l'information. Pourquoi ils ne doivent pas toucher et comment ils doivent se comporter et quels sont les moyens mis à leur disposition pour qu'ils puissent se comporter normalement.
C'était la parlementaire congolaise Eve Bazaïba.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Réaction des personnalités politiques en Afrique au sujet de la déclaration du président français Emmanuel Macron demandant aux chefs d'État africains membres du G5 Sahel de clarifier leur position pour leur maintien ou non des forces Barkhane déployées dans la région. La déclaration a été faite le 4 décembre dernier à l'issue du sommet de l'OTAN à Londres. De N'Djamena, la correspondance d'André Kodmajingar.
C'est pas en ce moment que le président français va désister afin que cette opération puisse continuer. Non, cette opération Barkhane, c'est une compétence pour tous.
Burkou Louise Garadoumbri est la présidente du parti Rassemblement pour le Progrès et la Justice Sociale, membre de la majorité présidentielle.
Les hommes politiques, même s'ils ne veulent pas de la présence des militaires français, ils dénoncent. Ils font le constat du comportement aussi des militaires français sur leur territoire. Parce que les pays africains, comme mon pays, a beaucoup perdu, mais en retour, il n'y a rien.
Le président Macron invite le 16 décembre prochain les 5 chefs d'État africains concernés à Paris pour apporter des réponses précises sur cette question. Selon des sources proches de la direction de la communication de la présidence de la République, le président Déby n'a pas encore donné son accord pour sa participation à cette rencontre. Pour la syndicaliste et activiste Demba Karium, Emmanuel Macron fait du chantage aux dirigeants africains.
Aujourd'hui, si nous sommes dans une situation critique dans le Sahel, c'est tout simplement à cause de la France. Et aujourd'hui, il se plaint du fait que la France est le seul à intervenir dans cette localité. C'est tout simplement pour appeler les autres à lui donner plus de moyens. Mais non, la France doit plier bagage. Parce qu'elle continue de nous piller. Elle continue de nous asservir. Si on prend le Tchad, on prend le Burkina et le Mali, vous pensez qu'on ne peut pas constituer des bataillons en termes de milices?
Pour l'heure, la réalité, c'est que les forces des États du Sahel, mal formées et mal équipées, peinent à faire face aux assauts quotidiens des bandes djihadistes. Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, voit la situation autrement.
Moi, je voudrais parler aux peuples africains. Soyons capables d'avoir, non pas l'obsession d'une autre puissance, mais ayons l'obsession de nous engager nous-mêmes dans nos pays. Il y a des situations pour lesquelles nous pouvons et nous avons le devoir de nous engager. Ne cherchons pas à identifier des ennemis et des adversaires extérieurs. Mais moi, mon intime conviction, c'est que ce dont il est question, c'est d'avoir l'intelligence collective en changeant ce qui nécessite d'être changé. Donc, ceci doit nous amener à ne même pas attendre qu'on nous
convoque pour aller essayer de dire ce que nous devons dire.
Aucun commentaire pour le moment au niveau du gouvernement du Tchad, ni du côté du parti au pouvoir. Cependant, le président Déby a réitéré ce week-end à Rome, en Italie, au forum du dialogue méditerranéen, un appel à l'endroit des partenaires d'appuyer plutôt les efforts du pays du G5 Sahel que de les orienter dans ce qu'ils doivent faire en matière de sécurité. Nous connaissons mieux que quiconque nos réalités et nos besoins pour agir en conséquence contre les menaces qui pèsent sur notre espace, a-t-il dit. André Kodmadjingar Ndjamena pour VO Afrique.
Pour beaucoup, le jour du mariage est quelque chose dont ils ont rêvé depuis leur plus jeune âge. Mais pour des centaines de milliers de jeunes filles ici aux États-Unis, l'idée de mariage est souvent synonyme de cauchemar à cause du mariage des enfants. Le reportage d'Anouche Avetissian avec le récit de Lionel Gaïma.
Une trahison dans ma propre famille. C'est ainsi que Friday Rice, qui a grandi dans une communauté juive orthodoxe de Brooklyn à New York, décrit ses 15 ans de vie dans un mariage arrangé. Après avoir échoué à divorcer, elle a obtenu un diplôme contre toute attente. Elle a économisé de l'argent et s'est enfuie avec ses deux filles. Freddie Reich est maintenant militante très engagée.
Ma famille et ma communauté me considèrent comme morte plus de 10 ans après.
Son expérience a fait d'elle une militante déterminée à lutter contre le mariage arrangé, forcé et le mariage d'enfants. Elle a fondé dans le New Jersey une ONG, Unchained at Last, qui signifie « Enfin libre » pour aider les victimes de mariage d'enfants. Depuis 2011, elle a aidé plus de 550 personnes à échapper à de tels mariages. En 2018, ses efforts ont conduit le New Jersey à devenir l'un des deux seuls États américains à interdire légalement le mariage de personnes de moins de 18 ans.
C'est vraiment choquant. Lorsque j'ai commencé à militer, le mariage des moins de 18 ans était légal dans les 50 États américains.
Dans la plupart des États américains, les jeunes sont autorisés à se marier à l'âge de 16 ans. Deux États américains autorisent les mariages à 14 ans et 13 autres États n'ont pas du tout d'âge minimum. L'Idaho a le taux de mariage d'enfants le plus élevé, avec plus de 400 000 mariages de ce type entre 2000 et 2010. En 2019, la représentante démocrate Melissa Wintrow a tenté de relever l'âge minimum à 16 ans, mais elle n'a pas réussi.
Compte tenu de l'histoire et de la nature conservatrice de cet État, j'ai proposé ce que je pensais être un compromis très raisonnable pour fixer au moins le mariage à 16 ans, ce qui correspond à notre âge de consentement et à nos lois sur le viol.
En 2019, la Louisiane a relevé l'âge minimum du mariage à 16 ans et la différence d'âge entre le conjoint quand on est mineur ne peut pas dépasser 3 ans. Kathleen Benfield, membre du forum Louisiana Family, était opposée à ce changement.
Ici en Louisiane, nous apprécions grandement le mariage et nous pensons que c'est une très importante institution, c'est le fondement de notre pays et de notre culture, notre société. Le mariage aide à élever et à nourrir les enfants. Le débat sur l'âge minimum du mariage a pris une sorte de tournure sombre en ce sens qu'il semble dénigrer le mariage.
Les législateurs et les militants contre les mariages d'enfants estiment que le problème est plus profond qu'un simple débat sur ce qui est une famille. La démocrate Melissa Winslow, représentante de l'État de l'Idaho.
Si vous regardez la démographie des enfants qui se marient, ce sont des enfants blancs de la classe moyenne. C'est notre problème et il est profondément enraciné dans l'histoire sexiste dans notre pays.
Pour Freddie Reich, il n'y a pas de débat. Selon elle, les mariages d'enfants doivent être interdits car le gouvernement américain condamne de telles pratiques dans d'autres pays, les qualifiant de violation des droits de l'homme. Selon les données recueillies par son ONG, sur plus de 250 000 enfants mariés entre 2000 et 2010, la majorité sont des filles mineures qui ont donné en mariage à des hommes plus âgés.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Joselle Morissin, présentation Abdourahmandia. Ainsi va le monde d'aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique. Bienvenue.